Voilà, c'est beau. Alors, on va commencer le cours. Bienvenue, Virginie. OK. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om Namo Bhagavate
Je
Vasudevaya.
suis le Prabhupada qui, Jai.
Jai.
Alors voilà, on est à la page 236, ligne 34. Ananda, est-ce que tu voudrais lire, s'il vous plaît?
Oui, avec plaisir. Du reste, dans le 18e chapitre, la conclusion de la Bhagavad Gita est sans équivoque. Sarva dharman parityajya parityajya mam ekam saranam vraja aham dvam sarva papebhyo mokshayash yashmi mashuka. On doit abandonner toute autre voie de réalisation spirituelle et simplement exécuter le service dévotionnel dans la conscience de Krishna. Ainsi pourra-t-on atteindre la plus haute perfection de l'existence. Et il est nullement besoin de s'inquiéter des actes coupables que l'on a commis dans sa vie passée, car le Seigneur suprême nous prend totalement sous sa protection. Qui souhaite se réaliser spirituellement n'a donc pas à chercher à se libérer par soi-même. Que chacun prenne refuge auprès du Seigneur suprême omnipotent, Krishna, car telle est la plus haute perfection de l'existence.
Est-ce qu'il y a des
12.6.
questions,
Ah,
des
pardon.
commentaires? OK, on continue.
12.4. Il ne s'agit pas de faire de compromis car c'est une question de nécessité absolue. Tous les êtres sont capables de s'engager dans le service de dévotion car ils ont tous une relation éternelle avec Dieu. De plus, le service de dévotion ne peut être offert qu'à Dieu. Tous les êtres ne peuvent que rendre service car telle est leur nature immuable. Lorsque l'objet de leur service se fixe sur Dieu, leur service devient purifié et constitue ce que l'on appelle le service de dévotion, offert à Dieu. Lorsque le service de tout être est rendu à tout autre objet que Dieu, il y a lieu de reconnaître un compromis de sa part quant à sa position constitutive d'éternel serviteur conscient de Dieu. Des déviations pour l'amour de toute forme de service n'ayant pas Dieu comme objet deviennent des causes de karma bandhana, enchaînement karmique. Ne seront d'aucune aide à la libération de tout être, au contraire. Il ne peut y avoir de compromis car c'est une question de nécessité absolue. L'âme en a besoin, c'est de retrouver sa relation avec Dieu et de s'y engager entièrement. Aucun compromis n'est possible à ce sujet qui n'amène le même résultat. Le service de dévotion peut sembler comporter un aspect totalement négatif par rapport à tous les ismes attirants de la vie matérielle. Sous leur charme, on se remet dans l'état d'âme philanthrope d'Arjuna. On ne pourra qu'en voir notre vision spirituelle s'émenuiser, sorry, et en peu de temps, l'on devra s'avouer facilement vaincu par un faux concept de valeur d'ordre tout à fait matériel n'est rien à voir avec notre nature spirituelle originelle. Mais le service de dévotion dépasse toute assise dans le matérialisme. Il offre ce qui ne peut être obtenu dans la vie matérielle. Il offre de savourer l'amour de Krishna, lequel permet une vision constante de Krishna. La vision constante de Krishna peut entièrement combler l'âme. Il n'est rien de supérieur dans les trois mondes. Voici un extrait d'un petit livre de Srila Prabhupada, The Journey of Self-Discovery. Alors, comment est-il possible de le voir? Sevonmuke hi jivado. Si nous nous entraînons nos sens, si nous purifions nos sens, ces sens purifiés nous aideront à voir Dieu. C'est comme si nous avions une cataracte aux yeux. Parce que nos yeux souffrent de cataracte, nous ne pouvons pas voir. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a rien à voir, seulement que nous ne pouvons pas voir. De même, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas concevoir la forme de Dieu. Mais si nos cataractes sont enlevées, nous pourrons le voir. La Brahma Samhita dit « Premanjana Churiti Bhakti Vilochenena Santaha Sadaiva Ridayeshu Vilokayanti » Sri Brahma Samhita 5.38. Les dévots dont les yeux sont loin de l'onguent de l'amour de Dieu, voient Dieu, Krishna, dans leur cœur 24 heures sur 24. Ainsi, nous devons purifier nos sens. Ensuite, nous serons en mesure de comprendre quelle est la forme de Dieu, quel est le nom de Dieu, quelles sont les qualités de Dieu, quelle est la demeure de Dieu et quelle est l'attirail de Dieu, et nous serons en mesure de voir Dieu en toutes choses. Il est absolument nécessaire d'apprendre à se dépendre des raies du karma, c'est-à-dire du cercle vicieux des actes intéressés. C'est genre à prendre ou à laisser. Soit l'on sert Krishna ou non, et l'on s'expose alors à accumuler actions et réactions indéfiniment. Ce sont nos actions et réactions qui déterminent nos corps successifs dans le cycle des morts et des renaissances. Il faut donc être assez intelligent pour y voir le cercle vicieux et préférer s'engager de tout cœur dans le service de dévotion offert au Seigneur, lequel ne comporte aucune réaction karmique. À ce sujet, en guise de rappel, nous vous présentons le mantra 2 de la Sri Upanishad. La sagesse de ce mantra et sa teneur reportée sont de valeur inestimable.
Jai, merci Jai. Beaucoup. Om Agyanati Manandasya Gananjana Sanakaya Chaksur Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, il y a une chose qui frappe dans ce qui a été lu, à savoir la constance dans le service de dévotion. Alors, service de dévotion, tant qu'on ne le connaît pas ou qu'on ne le pratique pas, on n'a aucune idée de l'existence du service de dévotion. On a juste à penser à notre propre vie. Avant de connaître les dévots, la Prabhupada, la conscience de Krishna, on était complètement à côté de la plaque. On n'avait aucune idée de la dimension absolument spirituelle de l'existence. En fait, il n'y avait pas de sens à notre existence. Des grands philosophes, des grands écrivains, en particulier avec la littérature française, des Jean-Paul Sartre de ce monde et puis d'autres qui ont des philosophies dépourvues de relations avec Dieu. Et c'est même enseigné dans les collèges, les cégeps, les universités, ce genre de littérature-là. Et ça passe pour très intelligent, mais en fait, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Parce que personne n'arrive à comprendre le tout complet qu'est Dieu, la personne suprême. Alors, dans le service de dévotion, c'est pas juste une question de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. 1 heure, 2, 3 heures par jour, mais c'est 24 heures par jour. La conscience qu'on devrait avoir de Dieu, la personne suprême. Alors, au point que Krishna dit, pensez toujours à moi. Il dit ça à Arjuna, emplis de moi ton mental. deviens mon dévot, voue-moi ton adoration et ainsi, pleinement absorbé en moi, certainement tu vas venir à moi. Alors ça, c'est la façon de faire et c'est le but en même temps qui est fixé par Krishna. Le but, c'est Krishna lui-même, avoir un service à faire pour Krishna. Et ça, c'est... Ça va dans des petits détails ou des grandes missions, peu importe. L'idée, c'est de faire service, de rendre service, service dévotionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de gain matériel à aller chercher lorsqu'on sert Krishna. On peut pas dire à Krishna, ben je sers, oui, mais ça me prend quelque chose en retour. Ça, c'est... Donc, c'est pas pertinent. Puis un dévot n'en a pas le goût non plus, parce que c'est un service d'amour offert à Krishna. Alors, on le fait parce qu'on veut bien le faire, ça nous fait plaisir de le faire, et on veut que Krishna soit content de notre service. Et aussi, comme on a lu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie? Ça, on peut poser la question et on peut répondre à la question de façon matérielle ou on peut répondre à la question de façon spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie? Comment vous allez répondre?
On peut commencer à marcher sur cette voie, tranquillement.
Servir
en devenir bon.
Oui. C'est ça. Comme on a dit, on vient de dire, on peut, si on pose la question à n'importe qui, la majorité vont répondre en fonction d'activités matérielles.
Mm-hmm.
Ils vont interpréter de cette façon-là. Mais, à la lecture d'aujourd'hui, on ne peut rien faire d'autre que, trois petits points de suspension, c'est quoi?
Du service de Krishna.
On ne peut, de Krishna, ça c'est une autre chose. Oui, de Krishna, mais dans la vie, on ne peut que rendre service, faire du service.
On fait c'est que juste, ça en fait. Pardon, oui.
C'est juste ça qu'on peut faire parce que c'est notre position constitutive.
Mm-hmm.
On est des serviteurs de nature. On peut rien faire d'autre. On ne peut pas vraiment dire, ah, je suis le maître de ceci ou cela. En fait, on est serviteur de ceci ou de cela. C'est ça que l'on, c'est comme quelqu'un peut penser, ah, moi, je suis le président de tel ou tel pays. Mais en fait, il est le serviteur de tel ou tel pays. C'est juste ça qu'il est en train de faire. Ou, s'il n'est pas dans la bonne mentalité de rendre service, il va rendre service à ses imaginations, à savoir de vouloir dominer, mettre les gens dans la misère, ceux qu'il n'aime pas. Et tout ça, c'est du service aussi. Mais c'est un service qui, donc on peut dire, qui est pas profitable à qui que ce soit. Mais si on rend service à Krishna, ce service-là devient profitable à tout le monde. À tous les êtres vivants vont avoir un bénéfice quand quelqu'un est engagé au service de Krishna. Alors, quel est l'exemple, la comparaison qui est faite lorsqu'on rend service à Krishna? À quoi on peut comparer rendre service à Krishna? Ça a déjà été dit plusieurs fois dans des cours.
Je suis pas sûre de comprendre la question.
À quoi on peut comparer rendre service à Krishna Si on est pour faire, par exemple, une analogie, à quoi on peut comparer? Rendre service à Krishna. On le dit souvent dans des cours.
La graine de la dévotion qui grandit ou non, je sais pas.
C'est rendre service au maître spirituel.
Oui.
Par analogie.
Par analogie. Le maître spirituel, c'est pas une analogie vraiment.
Non, je sais, oui.
C'est comparé à arroser la racine d'un arbre.
Ah, je n'étais pas loin avec la plante.
Alors, arroser la plante. Ça commence par la plante de la dévotion. Et puis, graduellement, avec le temps, ça finit par devenir un arbre. Ou un arbuste, parfois, c'est dit. Alors, c'est ce qu'on appelle le Bhakti Lata Bija. Alors, Bhakti Lata, c'est la semence de la Bhakti. Et ça, c'est Lata. Et Bija, excusez. Bhakti Lata veut dire la plante. La plante du service de dévotion ou bhakti. Et bija veut dire la graine ou la semence. Alors, c'est dit dans le Chaitanya Charitamrita, une teneur reportée de Srila Prabhupada, que le jour de l'initiation d'un disciple, le maître spirituel plante la semence de la bhakti dans le cœur du disciple. Alors, c'est dit aussi, lorsqu'un disciple est initié, il ne devrait pas prendre pour acquis que maintenant, c'est beau. Comme on dit en québécois, c'est beau, tout est fait, je suis parfait. S'il pense je suis parfait à ce stade-là, je m'excuse, là. Il peut pas être parfait à moins d'être un pur dévot de Krishna d'avance, là. Mais, Prabhupada dit, avec l'initiation, ce n'est que le commencement. Alors, après l'initiation, il y a la purification qui doit avoir lieu et se débarrasser ou se purifier des attachements, des mauvaises habitudes matérielles. Et ensuite, vient une étape de goût pour le service de dévotion, d'attachement pour le service de dévotion. Puis finalement, il peut commencer à avoir de l'extase de service de dévotion, et avant l'extase précède le pur service de dévotion. Tout ça, c'est étape par étape. Et l'initiation, c'est une des étapes dans la vie spirituelle. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, on va continuer. Virginie, voulais-tu lire? Dans la page 238, ligne 11.
À ce sujet, en guise de rappel, nous vous présentons le mantra 2 de la Shri Upanishad. La sagesse de ce mantra et sa teneur et portée sont de valeur inestimable. Kurvan eva karmani jiji vesek chatam samaha evan vai nani ateto si na karma libayati nare. Kurvan, en faisant continuellement, Eva ainsi, Iha, au cours de sa vie, de cette vie, Karmani, l'action, Jiji Viche, on peut désirer vivre, Satam, sans, Sama, en est, Evam, en vivant ainsi, Vahi, à toi, n'a aucun, Anyata, alternative, Ita, de cette voie, Ashti, il y a, n'a, ne pas, Karma, l'action, Lipayate, ne pas être, peut être lié, nare, pour l'homme. L'homme peut espérer vivre plusieurs centaines d'années s'il agit continuellement selon ce principe, car de tels actes ne l'enchaîneront pas à la loi du karma. Il n'existe pour lui aucune autre alternative. Personne ne veut mourir, chacun désire au contraire vivre le plus longtemps possible. On trouve cette tendance chez l'individu, mais aussi à l'échelle de la famille, de la société et de la nation. Toutes les espèces vivantes doivent mener un dur combat pour leur survie, et les Védas considèrent cela comme tout à fait naturel. Par nature, l'être vivant est éternel, mais son emprisonnement dans la matière le force à passer d'un corps à un autre. Cette transmigration de l'âme est due au karma bandhana, l'enchaînement à ses propres actions. En raison des lois de la nature, l'homme doit travailler pour vivre. Mais s'il le fait sans tenir compte des devoirs inhérents à la forme humaine, il transgresse ces lois, avec pour effet de s'enliser encore plus profondément dans le cycle des morts et des renaissances à travers les multiples espèces. Toutes les espèces vivantes sont soumises à ces morts et à ces renaissances répétées. Mais lorsque l'être obtient une forme humaine, il a la possibilité d'échapper aux chaînes du karma. La Bhagavad Gita nous explique de façon claire ce qu'il faut entendre par les mots karma, vikarma, akarma et akarma. Karma désigne les actes accomplis en accord avec les devoirs que nous prescrivent les Écritures. Vikarma désigne les actes qui résultent d'un mauvais usage de notre libre arbitre et nous oriente vers des formes de vie inférieures. Et akarma désigne les actes qui nous libèrent de l'engrenage des morts et des renaissances. Ces trois façons d'agir, l'homme intelligent choisira celle qui lui permet de se défaire des liens du karma. Le commun des hommes désire accomplir des actes méritoires afin que sa vertu reconnue lui donne d'être élevé en ce monde ou dans les planètes édéniques. Mais l'homme plus évolué, l'homme d'intelligence, cherche à agir de façon à s'affranchir des conséquences de tout acte, car il sait très bien que bonne ou mauvaise, ses actions l'enchaînent également à la souffrance matérielle. La Shri Sopanissade lui enseigne donc ici le mode d'action libérateur qui le sauvera des répercussions de tout acte, bon ou mauvais. Les enseignements de la Shri Sopanissade se trouvent développés dans la Bhagavad Gita, qu'on appelle également la Gita-Upanishad, c'est-à-dire la quintessence de toutes les Upanishads. Dans la Bhagavad Gita 3.9-16, Dieu, la personne suprême, déclare qu'il est impossible d'atteindre le stade de Naishkarma ou Akarma sans remplir les devoirs que nous assignent les textes védiques. Ces écritures peuvent régler les activités de chacun de manière à lui faire réaliser progressivement la souveraineté de l'être suprême, Krishna, la connaissance parfaite, positive et la réalisation de cette suprématie. Dans un tel état de pureté, les trois gunas, la vertu, la passion et l'ignorance, n'affecteront plus l'homme qui pourra désormais situer ses actes au niveau du Nishkarma où nul ne s'enchaîne plus au cycle des morts et des renaissances. En fait, l'homme n'a pas d'autre devoir que de servir le Seigneur avec amour et dévotion. Cependant, à un niveau de conscience inférieur, on ne peut dès lors se consacrer aux activités dévotionnelles et cesser complètement d'agir pour soi-même. L'âme conditionnée a l'habitude d'agir toujours pour son plaisir et son propre intérêt. Que ce soit au niveau égoïstement personnel, ou étendu à la famille et à la nation. Quand le principe de la jouissance matérielle dépasse l'individu pour s'étendre à la société, à la nation ou à l'humanité entière, il prend différents noms flatteurs tels que l'altruisme, le socialisme, le communisme, nationalisme, humanitarisme, etc. Ces ismes sont certainement des formes très attirantes de karma bandhana, pardon, enchaînement karmique. Mais la Shri Upanishad enseigne que si l'on tient à servir leur cause, on doit le faire en plaçant Dieu au centre. Il n'y a pas de mal à être un chef de famille ou à être altruiste, socialiste, communiste, patriote ou philanthrope, pourvu que ces rôles soient remplis selon le principe de l'Ishavashya, en faisant de Dieu l'Isha, le centre de toute action. La Bhagavad Gita 2.40 dit que les actes centrés sur Dieu ont tant de prix que le moindre d'entre eux protège du pire des dangers, celui de replonger dans le tourbillon des morts et des renaissances, en évoluant parmi les 8 400 000 espèces. C'est d'une façon ou d'une autre, l'homme laisse échapper l'occasion que lui donne sa forme humaine de réaliser Dieu et retombe dans le cycle d'évolution des espèces. Il subit la plus grande des infortunes, même si ce sens imparfait l'empêche de s'en rendre compte. La Shri Upanishad nous conseille donc d'utiliser nos énergies selon le principe de l'Ishavashya. On peut entretenir ainsi l'espoir de vivre de longues années, tandis que sans cet état d'esprit, une longue vie n'a aucune valeur. Les arbres jouissent d'une grande longévité, mais quel intérêt y a-t-il à vivre aussi longtemps que les arbres, à respirer aussi fort qu'un soufflet de cheminée, à procréer comme un chien ou à manger comme un chameau? Une vie humble et centrée sur Dieu vaut bien mieux que la colossale imposture que représente une existence dédiée à un altruisme ou à un socialisme athée. Mais les activités altruistes accomplies dans l'esprit Ishavashya de la Ishopanishad constituent une forme de karma yoga préconisée dans la Bhagavad Gita 18.5-9, car elles protègent leur auteur du danger que représente le cycle d'évolution des espèces au cours de morts et de renaissances successives. Les actes centrés sur Dieu, même s'ils ne sont pas menés à terme, sont tout de même profitables, car ils assurent à celui qui les accomplit une forme humaine dans sa prochaine existence, lui donnant une nouvelle chance de progresser sur le chantier de la libération spirituelle. Le Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami, que nous avons publié sous le nom de Nectar de la dévotion, traite en détail des actes centrés sur Dieu. Nous le recommandons à tous ceux qui désirent agir dans l'esprit de la Shri Upanishad.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Allez.
Alors, c'est dit ici, le mantra 2 de l'Ishopanishad, na karma lipyate nare. Il n'y a pas d'autre alternative, en fait, pour l'être humain. Et si on dit à quelqu'un, est-ce qu'il y a une autre alternative, qu'est-ce que cette personne peut répondre?
Non, il faut se tourner vers Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative.
Exactement,
Parce que
il n'y a pas d'autre alternative.
tout le reste est voué à la mort, donc ou à la destruction. Rien n'est éternel dans l'univers matériel. Donc pourquoi aller vouer, même les causes, en fait, si elles ne sont pas centrées sur Krishna, ce qui a été dit là, le socialisme, l'altruisme, toutes ces causes, oui, ça peut venir en aide, mais si Dieu n'est pas le centre de l'aide, on fait que, comme on avait vu dans un cours précédent, nourrir le corps, mais voilà, ou aider le corps, mais on va pas en profondeur, en fait.
Exactement. Alors, comme Prabhupada dit ici, il parle, mais l'homme plus évolué, l'homme d'intelligence, cherche à agir de façon à s'affranchir des conséquences de tout acte, car il sait très bien que bonnes ou mauvaises, ses actions l'enchaînent également à la souffrance matérielle. Alors, un dévot, doit cesser d'être un néophyte à un moment donné. Alors, comme Prabhupada disait, il voulait que les dévots parviennent rapidement au stade de dévot de niveau intermédiaire. Pas rester néophyte, disons, pendant longtemps, longtemps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut essayer autant que possible. C'est pas si impossible que cela d'être affranchi du concept matériel de l'existence. Alors, selon le concept matériel, quelqu'un s'identifie avec le matériel. Alors, il s'identifie avec sa terre natale. Alors, il va dire, je suis américain, je suis indien, je suis canadien, je suis français, je suis la terre. Où est-ce que je suis né? Tandis qu'en réalité, ce n'est pas vrai. On est une âme spirituelle, éternellement au service, comme serviteur, servante de Dieu, la personne suprême. Alors, ça, c'est notre position. Alors, si on est pour rendre service, parce que c'est juste ça qu'on peut faire, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, et comme Prabhupada dit ici, il y a beaucoup de causes, des ismes. Mais si ces ismes-là ne sont pas centrés sur, ne sont pas exécutés selon le principe de l'Ishavasya, en faisant de Dieu l'Isha le centre de toute action. À ce moment-là, on est lié aux conséquences de nos actes. Et ça, un dévot, c'est comme Arjuna. C'est exactement la position de Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra au tout début. Alors, Arjuna essaie, il pense d'éviter les réactions à ses actions et il ne veut pas combattre. Et ça, ça serait, en fait, ça entraînerait des réactions à ses actions. Alors, qu'est-ce qui fait la différence pour Arjuna? C'est un point important, ça. Qu'est-ce qui fait la différence? Si Arjuna ne combat pas, il va encourir des réactions. S'il combat, il n'y aura pas de réaction. Même s'il le tue, des soldats du camp opposé. Qu'est-ce qui fait la différence?
Parce que c'est pour Krishna.
Exactement. Parce que Krishna, c'est la volonté de Krishna. Krishna lui demande de combattre. Ah, il y a un verset, le Bhagavad Gita, Krishna, quand il a tout expliqué, il dit, est-ce que ton illusion maintenant est dissipée? Il y a un autre verset, Krishna dit, lève-toi et combat. Krishna lui dit clairement de combattre. Puis à la fin du Bhagavad Gita, comme on a lu aujourd'hui, Sarva Dharmam Parityajya, Mamekam Saranam Vraja. Laisse toute autre forme de devoir. Abandonne-toi seulement à moi, et moi, en retour, je te protège de toutes les réactions de tes actions. Alors, ça, c'est... Alors, comment on va connaître la volonté de Krishna? Qu'est-ce que Krishna veut que l'on fasse? Comment on va connaître?
En suivant les instructions du maître spirituel?
Exactement. Guru Sadhu Shastra. Guru, les instructions du maître spirituel, sadhu, les personnes saintes, et shastra veut dire les écritures. Alors, on est guidé par le maître spirituel, les personnes saintes et les écritures. Et de cette façon, on ne peut pas se tromper. Et si on veut agir en dehors de ces directives-là, c'est à nos risques et périls. Et ici, c'est expliqué assez explicitement de cette captivité dans le cycle des morts et de la naissance. Il y a 8 400 000 espèces de vie et un être humain n'est pas assuré de ne pas, il n'est pas assuré justement de ne pas retourner dans des formes inférieures à la forme humaine de vie s'il n'agit pas dans la conscience de Krishna. Alors, la conscience de Krishna est la forme d'action la plus sécure pour un être humain. Alors, un dévot de Krishna, qu'est-ce qu'il fait quand il voit justement l'égarement de l'humanité, qui ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle devrait faire? Qu'est-ce que le dévot fait?
Ben, il essaie de transmettre justement la connaissance par les chants, par les livres, par les kirtans, par essayer de communiquer avec le maximum de personnes, surtout si la personne se montre un peu intéressée pour transmettre le message, parce que ben c'est ça la vraie charité en fait.
Exactement. Un dévot essaie de propager la conscience de Krishna dans une forme ou une autre. Et justement, adapter dans la mesure que les gens peuvent comprendre aussi. Alors, des fois, la conscience de Krishna peut être indirecte. C'est pas ce qu'on souhaite, mais des fois, c'est indirect. Dans le sens que si quelqu'un voit que les personnes sont tellement à côté de la plaque, des fois, il faut simplement leur donner des suggestions qui vont leur faire prendre un pas en avant pour justement arriver graduellement, éventuellement, à la conscience de Krishna. Alors, comme par exemple, la non-violence envers les animaux. C'est pas nécessairement que ça rend quelqu'un conscient de Krishna, mais c'est déjà un pas en avant pour, disons, manger moins de viande, ne pas se mettre ce fardeau de karma sur le dos, et par la grâce de Krishna, éventuellement, pouvoir arriver à poser des questions, et puis débuter une vie spirituelle dans laquelle, pratiquement, il est sous-entendu de laisser de côté la pratique de manger de la viande, en fait, qui sont des carcasses d'animaux ou de d'autres espèces de vie, là. Bon. Mais c'est difficile, vraiment difficile pour les matérialistes, juste ce côté-là de leur nourriture. C'est difficile quand les gens sont empêtrés là-dedans, là. C'est difficile à laisser ça de côté. Et c'est très malheureux. Alors, on peut penser que des enfants de dévots qui naissent dans le mouvement ont beaucoup de chance parce que dès le début de leur vie, ils sont épargnés justement de ce karma lourd de conséquences de consommation de chair animale, et ils ont une chance de continuer leur progrès spirituel qu'ils avaient sûrement entamé dans une vie antérieure. Et puis ça, c'est la grâce de Krishna. Il y a une suite dans la vie. Il y a une raison pourquoi les choses se passent de telle façon ou telle façon. Et il y a toujours quelque chose à apprendre de la vie. La vie a sa façon d'instruire les âmes conditionnées pour les rectifier, mais c'est pas tout le monde qui a l'intelligence d'apprécier ce que la vie peut leur montrer. Et parfois, la vie peut être très dure ou très difficile, et il y a des choses à aller chercher. Même pour les dévots qui sont engagés dans le service de dévotion, il y a des leçons que la vie peut leur montrer. Et puis un dévot, son attitude, c'est une attitude justement de gratitude. Que oui, si la vie est difficile, le dévot va trouver quelque chose, un avantage. Quelle sera la conclusion d'un dévot si la vie lui semble bien difficile?
C'est Krishna qui le met à l'épreuve pour que justement il dépasse ça en fait. quelque part. C'est faut pas si, même si la vie est difficile, en fait, il faut tout remettre dans les mains de Krishna et se dire que ben Krishna va soulager le fardeau à un moment donné, si c'est sa volonté, mais quoi qu'il en soit, si c'est comme ça, c'est la volonté de Krishna. Donc, en fonction des situations, c'est des cas particuliers, hein, mais puis on en a tous vécu aussi.
Oui,
Et
d'accord.
c'est
Un dévot voit là une opportunité de s'abandonner davantage
voilà,
à Krishna.
ouais.
Alors, il accepte les conditions que Krishna lui met dans son existence. Il a une certaine gratitude à l'égard de Krishna à cet effet-là. Est-ce que des questions ou des commentaires? Alors, on vient de finir le livre. On a passé à travers une petite brique comme ça. 240 pages, pratiquement parlant. Et là, on est rendu à l'annexe. À moins que vous ayez d'autres commentaires, on va continuer avec l'annexe. C'est intéressant, ça aussi, l'annexe. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, on va continuer.
Excuse-moi, juste, si
Oui.
je peux me permettre, est-ce que tu peux revenir sur l'initiation? C'est quand tu parlais de l'initiation, tu parlais de la première initiation.
Oui. On parle de la première initiation. C'est une initiation qui est appelée on l'appelle c'est l'initiation Harinam. Harinam veut dire le saint nom. C'est une initiation par laquelle le maître spirituel disons, offre aux disciples un mantra et en ce qui concerne ISKCON, le mantra, ben, c'est le Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. C'est pas pour, ça c'est pour ISKCON. Mais, si on regarde, si on étudie un peu le Srimad Bhagavatam, c'est pas toujours Hare Krishna Mantra qui est donné comme mantra à un disciple. Alors, comme par exemple avec Dhruva Maharaj, son maître spirituel est, savez-vous c'est qui?
Narada, non?
Narada Muni.
C'est ça, Narada Muni.
Alors, Narada Muni a donné un autre mantra que le Mahamantra à Dhruva Maharaj, et c'était ce mantra-là qui a permis à Dhruva Maharaj d'atteindre la perfection. Alors voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce
Je crois
sujet-là?
qu'aujourd'hui, pour pouvoir être initié au niveau de l'ISKCON, il faut suivre les cours du disciple aussi.
Ouais, je trouve, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me concerne
Ah
beaucoup
non, mais on parle
parce que
plutôt pour nous.
je comprends. Je pense, moi, je trouve qu'ils ont compliqué ça. Ça a pas de bon sens. Ça, c'est mon point de vue personnel, parce que dans le, comme on dit en québécois, dans notre temps, ou dans mon temps, fallait simplement être un dévot du temple et suivre l'horaire du temple, faire des services au temple. C'est beaucoup plus facile quand quelqu'un habite dans un temple. Parce que le président du temple, il est là, il te voit aller à tous les jours. Alors, ça prend peu importe qu'est-ce qui arrive, le principe que Prabhupada suivait, lui, c'est que si un dévot, était recommandé par un président de temple, il allait l'initier. Il pouvait avoir l'initiation de Srila Prabhupada. Alors, et après, une fois la première initiation reçue, sur une période de temps environ qui peut varier entre 6 mois à 1 an, Là, le dévot pouvait recevoir la deuxième initiation, c'est-à-dire l'initiation de qu'on dit l'initiation brahmanique, qui est dite être la vraie initiation, par laquelle un dévot reçoit le Gayatri Mantra de son maître spirituel. Et donc, si c'est un garçon, il reçoit un fil de Brahman. Si c'est une femme, il n'y a pas de fil de Brahman. Et à ce moment-là, le dévot initié deux fois, il peut faire des services comme par exemple faire de l'adoration des déités sur l'autel. Ça, c'est ce qui est permis à un dévot deux fois initié. Les dévots qui sont initiés juste une fois ne sont pas permis d'aller sur l'autel. Il faut être brahman à ce moment-là pour aller sur l'autel. Enfin, c'est ce genre de service-là. Et si on veut être strict, 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 dans la cuisine, ça devrait être seulement des dévots initiés qui cuisinent pour les déités. Mais ça, c'est un principe qui n'est pas suivi strict, strict, strict. C'est genre, où sont les bonnes armes qui sont disponibles et ce seront les bonnes armes qui pourront cuisiner dans la cuisine de Krishna. Alors, c'est pas un standard qui est très élevé, mais c'est un standard qui est, disons, pratico-pratique parce que il y a une nécessité de cuisiner pour les déités. Et c'est aussi simple que ça, là. Alors, tu sais, mettons, les déités sont installées et, disons, dans les années 70, mettons, on prend le temple de Montréal, avec, attends une minute, il y a 5 ou 6 offrandes par jour. À un moment donné, là, ça prend du monde pour faire ça, là. Donc, des déités comme au Temple de Montréal, ça te prend à peu près au moins une vingtaine de dévots, plein temps, qui sont disponibles dans le temple. Et tu peux pas demander à juste une personne de cuisiner toutes les offrandes tous les jours, non plus. Tu peux pas maintenir ce standard-là. Oui, tu peux avoir un dévot ou une dévote qui va cuisiner beaucoup, qui va cuisiner souvent, mais la vie humaine est ce qu'elle est. Parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des impossibilités. Par exemple, il suffit qu'une personne soit malade ou qu'une personne doive déménager. Ou qu'une personne s'en aille pour une raison ou pour une autre. Mettons une raison de santé. Ben à ce moment-là, c'est à recommencer. Il faut trouver quelqu'un d'autre pour remplacer. C'est une des difficultés d'être président d'un temple, c'est qu'il faut qu'il soit un gestionnaire pour combler les besoins en ce qui concerne l'adoration des déités. C'est pas un poste ordinaire. Et ça a une certaine exigence. Puis même être un président de temple pour faire cette fonction-là, ça peut être fait pour un certain temps et encore là, à un moment donné, quelqu'un va pas être là indéfiniment. C'est le côté pratique de la position. Alors, c'est pourquoi au Temple de Montréal, il y a eu plusieurs présidents. Et ce ne sera pas nouveau qu'à un moment donné, c'est un tel, puis après, bien, il va falloir qu'il en trouve quelqu'un d'autre, pour une raison ou pour une autre. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Et, disons, moi, j'ai déjà été président au Temple de Montréal, président, vice-président, et disons que C'est une position, des fois, tu te sens très, très, très seul quand il n'y a pas de support. Ça dépend des personnes aussi. Il y a des personnes qui aiment travailler seules. Ils sont un petit peu, comment on peut dire? Sont pas très enthousiastes de travailler en groupe ou en équipe. Alors, ça peut aller pour un certain temps, et puis à un moment donné, et que faut-il dire? Ça, c'est aussi un autre problème. C'est que quelqu'un peut avoir la position, mais s'il n'est pas parfaitement pur dans cette position-là, il va perdre la position. Parce que les déités vont s'arranger que la personne fait des offenses et d'une façon ou d'une autre, cette personne-là ne pourra pas garder cette position-là. Il y a une pureté à garder dans cette position-là. Et c'est la vie spirituelle qui est comme ça. Si quelqu'un fait trop d'offenses, et on peut dire aussi qui ne fait pas des offenses, mais il y a des limites. Il faut suivre les quatre principes minimum. Chanter 16 tours. Être un dévot qui suit le programme dans le temple. Puis à ce moment-là, ça, quelqu'un peut garder la position. Mais autrement, pas garanti la personne va durer longtemps. Et la personne doit être aussi un exemple pour les autres dévots. C'est lui la personne qui est président du temple. Il doit montrer l'exemple. Les autres dévots doivent être inspirés par son exemple. Et une autre erreur à faire lorsque on est dans une position comme ça, la purification implique de ne pas être un dirigeant qui dirige comme n'importe quel matérialiste. En d'autres mots, genre, c'est moi qui mène, c'est moi qui ai le patron, c'est moi qui ai le dernier mot, vous devez m'obéir, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, ce genre-là, ça devrait être évité autant que possible. Ça n'a pas sa place. Pourquoi? Parce que c'est une position de service. On fait simplement rendre service. On n'est pas là pour dominer qui que ce soit. On doit être humble serviteur. Ça, c'est l'attitude qu'on devrait avoir. Et c'est juste comme ça. Alors, si on est dans une position d'humble serviteur, ça atténue l'anxiété que quelqu'un pourrait avoir dans une telle position. Si on est dans une mentalité de humble serviteur. C'est l'attitude à avoir en passant. C'est pas, autrement, c'est bien difficile. Tu peux pas imposer non plus. Alors, ça prend aussi un autre ingrédient qui est bien important, un ingrédient invisible, la grâce de Krishna. Ça prend la grâce de Krishna pour avoir du monde que Krishna va envoyer pour rendre service. Alors, j'ai déjà été dans cette position-là et mon attitude, c'était, je veux pas dire que je suis parfait, là, quoi que ce soit, tout le monde fait des erreurs, mais je sais que j'avais une attitude de respecter le choix des individus à qui tu demandes du service, de faire service. Alors, il y a deux façons disons, de diriger un temple, et ça s'est passé, ça fait partie de l'histoire de ISKCON, ça. Quelqu'un prend pour acquis que tel ou tel dévot, tu peux le diriger n'importe comment, de n'importe quelle façon, puis le dévot est obligé de dire oui tout le temps, tout ce qui lui est demandé. Et même si c'est pas écrit nulle part ce genre de mentalité-là, mais c'est, dans la réalité, des fois, ça se passe comme ça. Mais si tu as une attitude de respect envers les dévots, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des oui des dévots pour faire du service parce que les dévots se sentent respectés. Tu respectes qu'ils ont un choix. Comme Krishna respecte le choix de tous les êtres, à savoir de le servir ou pas vouloir le servir. Alors, un président de temple, c'est la même chose. Il doit, disons, assez intelligent pour, disons, pour faire preuve de charme aux propositions de service qu'il peut présenter à des dévots ou des dévotes dans un temple. En ces genres, mettons, t'approches tel dévot ou tel dévote, puis tu leur dis, oh, il y aurait tel service à faire. Est-ce que ça t'intéresserait de faire ce service-là? À ce moment-là, qu'est-ce que tu peux obtenir comme réponse? Ils vont dire oui, ils vont dire non, mais au moins, ils auront senti que tu respectes leur libre arbitre. Ils peuvent dire oui, ils peuvent dire non. C'est pas parce que tu demandes que tu t'attends obligatoirement à ce qu'ils vont dire oui. Moi, personnellement, c'est mon point de vue. De respecter justement le libre arbitre des dévots ou des dévotes à qui on demande du service. C'est mon point de vue, mon opinion. C'est mon expérience. Et quand tu respectes le monde, en principe, le monde va te respecter aussi. C'est aussi simple que ça, là. Mais c'est beaucoup plus agréable d'aller chercher des dévots ou des dévotes quand tu respectes leur choix. Peu importe qu'est-ce qu'ils veulent décider. C'est la même chose que des parents par rapport à leurs enfants. C'est la même chose. Les enfants, quand ils sont petits, tu vas t'attendre à ce qu'ils te disent oui sur tout ce que tu leur demandes. Mais à un moment donné, il faut que tu respectes. Ils disent oui ou ils disent non. Même quand ils sont bébés, il faut que tu t'aperçoives, là. Mettons, tu essaies de les faire manger. Qu'est-ce que tu t'attends jusqu'à temps qu'ils refusent de manger encore plus parce qu'il n'a plus faim? C'est aussi simple que ça, là. Alors, quand ils deviennent adolescents, ben, ils prennent leur décision. Tu peux peut-être ne pas toujours être d'accord avec leur décision, mais c'est encore la même chose. Ils ont un pouvoir de décision qui devrait être respecté dans la mesure du possible. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Merci beaucoup en tout cas pour ce grand panel d'expérience, au retour d'expérience et de c'est très enrichissant en tout cas.
Merci, merci. Alors, on pourrait avoir un panel plus grand, mais notre expérience de vie, c'est qu'on a donné tant X nombre d'années et on n'est pas le genre de dévot qui a consacré à 100% tout son temps au mouvement de la conscience de Krishna pour une raison ou pour une autre. Mais disons que la conscience a toujours été favorable à l'expansion de la conscience de Krishna. Ça a toujours été là. Ça ne change pas. Physiquement, on peut faire preuve d'une certaine absence, mais ça ne veut pas dire que mentalement, on n'est pas là. Mentalement, on est là. Et on veut être conscient de Krishna, c'est tout. C'est comme on dit aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative pour un dévot. Il faut que ça soit comme ça. C'est un choix volontaire. Comme Prabhupada disait aussi, j'ai lu dans des lettres de Prabhupada, en ce qui concerne l'éducation des enfants au Gurukul, Prabhupada disait qu'on ne peut pas forcer. Il disait, n'utilisez pas la force envers les enfants. Alors, faut vraiment faire preuve de jugement. C'est important. Alors, quelqu'un peut dire, ben oui, mais, tu sais, je sais pas, moi, c'est comme aller à l'école, là. Genre, disons, même aujourd'hui, tu vas entendre des lamentations de certains professeurs ou de certains observateurs qui préfèrent avoir des plus petites classes que, justement, que des circonstances où le gouvernement les force à prendre de plus en plus d'élèves. Alors, se ramasser avec des classes de 30 ou 40 élèves, c'est différent d'avoir 15 ou 20 élèves. Pas la même chose, là. Parce que là, à ce moment-là, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre, de tolérance, ou de disponibilité envers un certain nombre d'élèves qui pourraient avoir des difficultés. Parce que t'en as un gros paquet à t'occuper. Alors, c'est beau, là, l'administration avec des chiffres. Mais il y a un facteur humain qui rentre en ligne de compte, là. Alors, voilà. Questions, commentaires? OK. Alors, on va y aller pour l'annexe. Ananda, s'il vous plaît. L'annexe.
Oui. Verset Srimad Bhagavatam 5.18.12. Yashyati Bhaktir Bhagavati Akinchenya Sarvir Gunais Tatra Samsate Sura Arav Abhaktasya Kuto Mahad Guna Manorate Nasati Davato Bai. Yasya, de qui? Asti, il y a. Bhakti, le service de dévotion. Bhagavati, à Dieu, la personne suprême. Akinchanya, sans aucun motif. Sarvai, avec toutes. Gunai, les qualités. Tatra, là, dans cette personne. Samasate, résident. Sura, tous les devas. Aro, à Dieu, la personne suprême. Abhaktasya, d'une personne non dévouée. Kuta, où? Mahat Guna, qualité. Manoratena, par la spéculation intellectuelle. Asati, dans l'univers matériel et éphémère. Davata, qui court, bahi, à l'extérieur. Tous les devas, avec leur éminente vertu, comme la religion, le savoir et le renoncement, se manifestent chez la personne qui a développé une dévotion pure et sans mélange pour Dieu, la personne suprême, Vasudeva. Au contraire, l'être dénué de dévotion et accaparé par des actes matériels ne possède aucune qualité. Même s'il est versé dans la pratique de l'Ashtanga Yoga, ou qu'il se montre très capable d'entretenir honnêtement sa famille et ses proches, il ne peut en effet qu'être entraîné par ses propres élucubrations mentales et se vouer au service de l'énergie externe du Seigneur. Comment de louables qualités pourraient-elles habiter un tel homme? Teneur et portée. Comme l'expliquera le verset suivant, Krishna représente la source originelle de tous les êtres. Lui-même le confirme d'ailleurs dans la Bhagavad Gita 15.7, lorsqu'il dit « Mamai vamso jiva loke, jiva bhuta sanatana, mana sastanindriyani, prakriti sastani karsyati. » Les êtres dans le monde des conditions sont des fragments éternels de ma personne. Mais parce qu'ils sont conditionnés, ils luttent avec acharnement contre les six sens et parmi eux le mental. Tous les êtres vivants font partie intégrante de Krishna, dont ils représentent des fragments, et lorsqu'ils ravivent leur conscience de Krishna originelle, ils possèdent en qualité infime toutes les qualités du Seigneur. Quiconque suit les 9 pratiques du service de dévotion, Svamanam, Kirtanam, Vishnos, Smaranam, Padas, Sevanam, Archanam, Vandanam, Dashyam, Sakyam, Atma, Nivedanam, voit son cœur se purifier et peut aussitôt comprendre le lien qui l'unit à Krishna. Il retrouve alors sa vraie nature, qui est d'être conscient de Krishna. Au 8e chapitre de l'Adilila, le Chaitanya Charitamrita nous décrit quelques-unes des qualités du Bhakta. Il est dit, par exemple, que Sri Pandita Haridasa avait un comportement exemplaire, qu'il était tolérant, serein, magnanime et grave. De plus, ses paroles étaient très douces et ses activités fort agréables. Il se montrait toujours patient, respectait tous les êtres et œuvrait constamment au bien d'autrui. Son mental était dénué de toute duplicité et de toute malveillance. À l'origine, ce sont des qualités de Krishna, et celui qui devient un bhakta les voit se manifester automatiquement en lui. Sri Krishna Dasa Kaviraja, l'auteur du Chaitanya Charitamrita, déclare à ce propos que toutes les qualités s'éveillent chez un Vaishnava et que ce n'est que par la présence de celles-ci qu'on peut distinguer un Vaishnava d'un non-Vaishnava. Il nous énumère en outre 26 qualités du Vaishnava. 1. Il fait preuve de bienveillance envers tous. 2. Il ne se fait l'ennemi de personne. 3. Il dit toujours la vérité. 4. Il se montre égal envers tous. 5. Il est irréprochable. 6. Magnanime. 7. Doux. 8. Toujours propre. 9. Dénué de possessions matérielles. 10. Il œuvre pour le bien de tous. 11. Il est très paisible. 12. Il s'abandonne toujours à Krishna. 13. Il n'a pas de désir matériel. 14. Il est humble. 15. Il est stable. 16. Il est maître de ses sens. 17. Il mange modérément. 18. Il ne se laisse pas influencer par l'énergie d'illusion du Seigneur. 19. Il respecte tous les êtres. 20. Il ne demande aucun respect pour lui-même. 21. Il est très grave. 22. Compatissant. 23. Amical. 24. Poète. 25. Habile. 26. Silencieux.
Ah, merci beaucoup.
Jai.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
J'ai une petite question rapidement. C'est peut-être juste le vocabulaire qui est utilisé. Quand ils disent très grave,
ouais.
C'est dans quel sens exactement? Juste pour être sûr que j'ai bien compris. Je vois ça comme dans un sens sérieux. Mais je sais pas si c'est
pas
ça.
Nécessairement ça.
OK.
Ça veut pas dire qu'il est... Oui, il est sérieux, oui. Mais cette qualité de gravité est expliquée dans le Nectar de la dévotion par Śrīla Prabhupāda. Et la gravité d'un dévot, c'est expliqué que tu ne peux pas sonder son mental. Tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il pense, le dévot. Ça, c'est dans ce sens-là, la gravité, il est grave. Alors, comme par exemple, si vous regardez il y a une photo de Prabhupada que Prabhupada voulait qu'on utilise comme étant la photo de Prabhupada, maître spirituel, dans ISKCON. Et cette photo-là, Prabhupada a un visage très, très grave. Tu peux pas deviner qu'est-ce qu'il pense. Il y a beaucoup de photos de Prabhupada qui a un sourire et que les dévots aiment bien. Mais il y a des photos de Prabhupada. Prabhupada a un visage très grave, très sérieux. Et puis, c'est comme ça un dévot. C'est une des qualités d'un dévot. Son mental, à quoi il pense? que vous pouvez supposer qu'il pense. Le dévot de Krishna. Ben, il pense à Krishna. Il pense au service de Krishna, au service des dévots, au mouvement de Sankirtan, Seigneur Chaitanya. Et ça, la gravité sous-entend aussi qu'il est pleinement absorbé dans ce sujet-là, dans le service. Alors, c'est comme, par exemple, si vous êtes absorbé dans quelque chose, automatiquement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous ne voulez pas être dérangé parce que vous êtes en train de penser fort à tel sujet qui vous demande justement concentration. Et c'est sûr que par la force des choses, vous allez être grave. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Oui, tout à fait.
T'sais, même pour des gens, mettons, qui écoutent la télévision, ils sont tellement absorbés dans leur programme qu'ils veulent pas se faire déranger. Ils veulent suivre. Qu'est-ce qui se passe à l'écran? Et c'est comme ça. Alors, dans le service de dévotion, c'est la même chose, là. T'sais, supposons que tu es en train de chanter des tours, là. Puis l'entourage, pour ne nommer personne, vient te déranger. À un moment donné, là, ça commence à être fatigant, là. T'sais, tu vas dire un autre moment, s'il vous plaît, ou quelque chose. Tu veux pas te faire déranger parce que tu te concentres sur le chant des saints noms. Et à qui on va adresser cette réprimande-là en premier lieu quand on chante ses tours?
À son mental, à soi-même, en fait.
Exactement. Je pensais pas que ça allait être si facile que ça à répondre.
Mais c'est vécu, c'est pour ça.
C'est ça que je...
Ben justement, c'est le mental à qui il faut parler, là.
Exact. Reste-là tranquille.
Et Srila Bhaktisiddhanta disait, pour contrôler le mental, il faut lui donner 100 coups de chaussure le matin, puis un autre 100 coups le soir. Alors, matin et soir, il donne des coups de chaussure. D'autres mots, t'essaies de le discipliner. Et puis, ne pas lui donner de chance. T'sais, on peut, comme Prabhupada expliquait aussi, non, c'est Srila Bhaktisiddhanta qui expliquait justement. On peut être tolérant à l'égard des autres, mais exigeant envers soi-même. Et c'est comme ça que ça devrait se passer, au lieu que ça soit le contraire. Qu'on est exigeant envers les autres, mais très tolérant envers soi-même. Parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Alors, ça devrait être le contraire. Srila Bhaktisiddhanta expliquait ça comme ça. Qu'on devrait être tolérant envers les autres, mais exigeant envers soi-même. Et, qui demande aussi une certaine forme d'humilité, d'être exigeant envers soi-même. En d'autres mots, on pourrait dire, pour qui est-ce qu'on se prend, sans le dire, qu'on n'a rien à se reprocher? On est tellement parfait, là, on n'a rien à se reprocher. Hey, nous autres, on est parfait, là. Et combien de personnes qui pensent comme ça?
Ben, quand on est sur la voie de la bhakti, on pense pas comme ça normalement.
C'est ça. Mais dans la vie matérielle, il y a beaucoup de monde qui, justement, sont emportés par le faux ego. Et à cause de ça, ils ne s'entendent. Comme on a lu, là, la semaine passée, dans un cours, les griots médis sont toujours jaloux les uns des autres.
Ouais.
À cause du faux ego. Ils sont toujours en train de trouver des fautes. Lui, il fait
Se
ci.
jalouse en permanence, puis se jalouse en permanence, en fait.
Ouais. Alors, pour les dévots, c'est pas comme ça, là. Ça a pas sa place, ça. Pourquoi ça a pas sa place? Comment se fait-il que ça n'a pas sa place?
Ben parce que, enfin,
Parce qu'on a tous le même but.
c'est ça. Il n'y a pas
On
de
a tous
compétition.
le même focus et on veut tous satisfaire Krishna.
On doit tous agir pour servir
Ben,
Krishna.
c'est
Donc, si on a le
normalement.
même but, logiquement, on doit s'entendre.
On doit être capable de mettre des querelles de côté, au moins. Et
Au moins ça.
focusser sur le but. Et voilà.
Parce que les dévots ont Krishna.
Exact.
Que ce soit le but, le moyen, le milieu, whatever. Les dévots ont Krishna. Alors, parce qu'ils ont Krishna, dans la mesure où ils saisissent Krishna aussi, là, parce qu'on peut avoir Krishna à 1%, puis un autre peut l'avoir à 50%, là, ça dépend de l'abandon et de l'absorption dans la conscience de Krishna. Mais parce qu'un dévot a Krishna, on peut prendre pour acquis que le dévot est comblé. Et parce que le dévot est comblé, il n'y a pas besoin de regarder ailleurs. Qu'est-ce que les autres ont? Qu'est-ce que lui n'a pas par rapport aux autres? Ça n'a pas de raison d'être. Parce que le dévot va penser, ça c'est un autre, si on peut dire, signe d'humilité. À savoir que Krishna peut se donner à n'importe quel dévot. Et c'est pas à nous de juger d'autres dévots en pensant que, ah, eux autres sont moins conscients de Krishna. Non, un dévot doit être assez humble et apprécier justement le degré de conscience de Krishna que les autres dévots peuvent avoir. Et ça va être apprécié des autres dévots. C'est des dévots qui apprécient d'autres dévots. Il n'y en a pas des tonnes. Il devrait en avoir des tonnes, mais comment on peut dire, ça vient avec le temps. Alors, disons, le manque de pureté va faire en sorte que quelqu'un va trouver facilement des fautes chez autrui. Mais un dévot avec la pureté, ça semble paradoxal. Il va être de moins en moins intéressé à trouver des fautes chez autrui. Alors, dans le Adi-lila du Chaitanya Charitamrita, et je me demande même, là, qu'on vient de lire, là, les qualités de ce dévot qui s'appelait Sri Pandit Haridas, et je me demande même si parmi ces qualités de ce dévot-là, mais il y a un dévot dans l'entourage du Seigneur Chaitanya, parce que le Seigneur Chaitanya avait plusieurs dévots qui le suivaient tout le temps, qui faisaient partie de ses divertissements. C'est ça. Et il y en avait un dévot qui, lui, ne trouvait jamais faute avec les autres dévots ou avec les autres carrément. Il ne trouvait jamais faute. Il ne faisait qu'apprécier le service que les dévots offrent à Krishna. C'est une qualité, ça, d'un dévot. Alors, je m'excuse de m'étendre un petit peu, là, mais ce qu'on vient de lire, là, le verset dans le mot à mot, Srimad Bhagavatam 5, 18, 12, le sanskrit, Mahat Gunaha, qui est traduit par qualité. Et Mahat, c'est le mot Maha, c'est-à-dire des grandes qualités. Alors, c'est traduit par qualité tout court. Alors, Mahat Gunaha, c'est quand quelqu'un s'engage au service de Krishna, il va développer des bonnes qualités. C'est la récompense, c'est la bonté de Krishna, de que ça se passe ainsi. C'est la grâce de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Non, merci Prabhu.
OK. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, pour le prochain cours, on va commencer un nouveau volume. Ça va être le mantra 15, c'est ça. Mantra 15 de l'Ishopanishad, ça c'est déjà écrit. Moi, je l'ai pas imprimé de mon côté, mais je sais que tous les mantras sont faits de 1 à 18. Alors, le prochain cours, je vais le mettre en ligne, disponible avant le prochain cours, qui est dans 2 semaines, là. Alors, il va être disponible aussitôt que je mets à jour le site. Il va avoir le cahier de mantra 15 qui va être mis en ligne. Et le mantra 14 va être retiré. D'habitude, c'est comme ça que je procède. Alors, je suis sûr que vous avez déjà le mantra 14 avec vous autres.
Ah oui. Ouais. C'est ceux d'avant qu'on n'a pas. On a le 13, mais nous, on est arrivé au 13.
OK. Alors, je verrai ce que je ferai à ce niveau-là, mais au moins m'occuper du mantra 15 pour la prochaine fois.
Mm-hmm. Merci,
le prochain
vous.
Cours.
Merci beaucoup, Pablo.
Et je sais que depuis je fais des cours comme ça, dans les débuts, les cahiers de cours étaient petits. Des fois, j'avais 10 pages, 40 pages, puis ensuite de 40, c'est monté à une centaine de pages, puis...
Mais
à chaque
non,
cahier, ça a grossi à chaque fois. Puis là, disons qu'on est dans une moyenne d'à peu près 150 pages par cahier, à peu près, comme tel. Alors, c'est ça. Alors, ça a pris un peu de temps avant de figurer la chose. C'est la grâce de Krishna qui donne l'intelligence pour faire ce genre de choses-là. Par sa grâce, par la grâce de Prabhupada aussi. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup.
Merci, Prabhu. Merci
Et
beaucoup.
Et puis, au prochain cours, qui va être mercredi à 19h.
Parfait.
Merci.
À mercredi.
Hare
Krishna.
Krishna.
Hare Krishna.
Allez, bon.
Allez, bon. Jai.
Le chemin de la conscience de Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna. Jai.
Jai.
Allez, bon.
Allez, bon.
Die.